Juste en préambule de cette communication, je vais préciser que moi j'ai saisi l'opportunité de ce colloque pour plutôt vous présenter un positionnement. C'est-à-dire que je vais faire ce qu'il est absolument interdit de faire, c'est-à-dire que je ne vais pas m'attacher à l'administration de la preuve de ce que j'apporte. Alors, ce travail, il est informé par un certain nombre de recherches, donc dans vos questions, je pourrais y revenir. Mais j'ai plutôt voulu apporter un positionnement, et la précision, elle vaut pour que vous compreniez bien que ce n'est pas un positionnement idéologique, il est bien informé scientifiquement, mais voilà, c'est plutôt une synthèse donc, du coup, d'un ensemble de travaux et d'un positionnement que je développe depuis une dizaine d'années. Donc cette communication, elle part d'un constat relativement simple, celui d'un intérêt grandissant dans les démarches urbanistiques pour cette thématique qui nous occupe, celle de l'affectivité. Les travaux, les publications sur cette thématique sont effectivement multipliés depuis une quinzaine d'années, témoignant de la prise de conscience de l'enjeu hein, des relations affectives qu'entretiennent les individus, les groupes sociaux, avec leurs espaces de vie. Et puis aussi de la revalorisation d'un registre longtemps exclu hein, du domaine de la scientificité. Pour autant, moi, je trouve que la diversité des voies d'approche de l'affectivité ne facilite pas toujours la compréhension des implications pratiques de cette montée en force des émotions. Et ce que je constate auprès des praticiens en premier lieu, mais aussi auprès d'un certain nombre de chercheurs, c'est que les concepts renvoyant à ce domaine de l'affectivité, qui sont la sensibilité, l'émotion, le sentiment, sont employés plus souvent comme des quasi-synonymes, sans véritable distinction. La nature de ces phénomènes, supposés subjectifs, individuels, authentiques et étrangères à toute forme de rationalité, apparaît finalement comme une évidence et est prise comme un allant de soi, sans être véritablement questionnée. Les usages de ces concepts relèvent alors d'un prêt-à-penser, empruntant à la vision contemporaine, le caractère principiel de l'affectivité. Finalement, la compréhension de ces phénomènes et la justification de leur prise en compte en urbanisme s'arrêtent à la dimension phénoménale, aux formes extériorisées de leur expérience, à leur expression, sans que les mécanismes à l'origine de ces phénomènes soient véritablement explicités ou même reconnus. De mon point de vue, l'affectivité s'en trouve ainsi réduite à une dimension essentiellement physiologique, d'une part, et principalement utilisée à des fins communicationnelles, d'autre part. Cette réduction, de mon point de vue, elle est dommageable, et elle passe sous silence les conditions historiques, culturelles, sociales et politiques qui sont partie prenante de ces phénomènes. Donc ma communication, elle vise à souligner plutôt la logique relationnelle de l'affect, et à en tirer un certain nombre de conséquences pour la saisie du rapport affectif au lieu. Alors effectivement, il y a un certain nombre de lieux communs, hein, quel projet urbain, architectural ou paysager fait pas référence aujourd'hui à la dimension sensible, ne se revendique pas d'une approche sensible, jouant d'ailleurs sur la polysémie et la connotation plutôt positive du terme, hein, supposant empathie, bienveillance. Pour autant, si on constate cette prise en compte, cet intérêt dans les phases préalables à l'action, à l'étape aussi de la conception des projets, encore même dans la réalisation avec l'attention portée au chantier, la dimension sensible est devenue en quelques années finalement un totem de la fabrique urbaine contemporaine. Alors, la reconnaissance des affects, elle n'est pas nouvelle dans les sciences de l'espace. Hein. La prise en compte des phénomènes de l'affectivité, par contre, comme ressource pour l'action, elle est quant à elle beaucoup plus récente. Et comme l'a formulé Yves Chalas, hein, elle s'inscrit dans un profond renouvellement de l'imaginaire aménageur. Très rapidement, elle fait suite hein, à la remise en question du modèle technocratique et rationaliste de l'intervention sur les espaces. Et donc elle laisse une large place à cette dimension affective, bien qu'elle soit finalement dans ses approches pour les professionnels et aussi pour les chercheurs, finalement relativement peu conceptualisée. Donc les professionnels que moi j'observe s'en remettent au sujet de cette question, un ensemble d'idées, de postulats implicites, et qui sont en grande partie héritées de la perspective phénoménologique. Alors, bien sûr, on doit à la méthode phénoménologique d'avoir mis en lumière et décrit la résonance affective de l'existence spatiale. Hein, Éric Darbel, Gaston Bachelard, Pierre Sansot, Jean-Pierre Kaufmann, etc. Mais cette approche phénoménologique, elle implique un principe réductionniste hein, que formulait Husserl, c'est le retour aux choses elles-mêmes, aux phénomènes, au-delà des discours et des opinions. Et donc, cette construction, la compréhension du rapport affectif de l'homme à l'espace, à travers cette approche phénoménologique, elle constitue hein, la matrice conceptuelle de l'appréhension de l'affectivité, et puis de la déclinaison dans son opérationnalité sur les espaces, l'aménagement des espaces. Dans cette filiation hein, phénoménologique, les notions d'expérience, de subjectivité, d'intériorité, et leur corollaire, c'est-à-dire l'intérêt premier pour la perception, la sensation et les dimensions sensorielles, marquent profondément la compréhension de cette dimension affective du rapport à l'espace sans que ces postulats soient véritablement interrogés. Finalement, il y a une essentialisation de l'affectivité réduite à sa faculté sensible. La méthode phénoménologique, ou du moins une certaine compréhension, parce que c'est, si on rentre véritablement dans la phénoménologie, c'est plus complexe que ça, elle se centre sur les contenus de conscience pris dans leur instantanéité. Elle a pour effet d'annuler l'interaction entre le sujet et l'objet, et par là même de renoncer à une partie de la réalité sociale. On observe, moi je milite plutôt pour une disjonction de l'affectivité et de la subjectivité, et je m'en réfère pour ça à des travaux qui sont anciens, hein. Des contributions majeures, selon moi, pour la compréhension de cette dimension affective, et notamment Raymond Ledru et Kaj Nochis, qui sont respectivement sociologues et psychosociologues. Et donc, je me permets de rappeler simplement les contributions de ces deux auteurs. En premier, dans « Images de la ville », de Raymond Ledru, lorsqu'il analyse les significations associées à la ville, il révèle l'importance des représentations sociales et le point central des valeurs, l'aspect central des valeurs dans l'appréhension affective de l'espace urbain. De son côté, Nochis, sur son travail sur le quartier, souligne le fait que la signification affective de l'espace s'inscrit dans un contexte social historique qui s'avère déterminant pour comprendre comment l'habitant vit émotionnellement les lieux. Nochis insiste tout particulièrement sur la dimension relationnelle de la signification affective et il s'appuie sur deux concepts, l'identité et l'affectivité, qui, selon lui, sont des médiateurs de la relation qu'entretiennent les individus et les sociétés avec leur environnement social. Donc, se basant plutôt sur ces travaux, on comprend aussi davantage, selon moi, les enjeux de la saisie, du rapport affectif au lieu. L'affectivité ne concerne pas exclusivement l'individu, sa faculté de sentir, mais elle implique de considérer plus largement les contextes socio-historiques dans lesquels les émotions, les sentiments et les sensibilités des individus s'expriment. Et pour ça, d'ailleurs, on peut reconnaître que la compréhension des phénomènes de l'affectivité varie à travers l'histoire. C'est le philosophe Marc Richer qui a souligné que le concept d'affectivité, il émerge dans un cadre situé, le cadre de l'institution moderne du sujet. Autrement dit, l'intérêt porté par les sociétés à la question des affects s'inscrit dans un contexte historique dont les caractéristiques peuvent être identifiées et vont de pair avec l'émergence d'un individu hyper moderne. Comme l'a aussi bien montré la sociologue Eva Illouz, la formation du capitalisme et avec elle la diffusion dans le monde de l'entreprise des discours psychanalytiques et psychologiques a favorisé le développement d'une nouvelle culture de l'affectivité, dont la principale caractéristique est de pousser l'individu à la réalisation la plus intime de soi. Alors bien sûr, il est indéniable que l'expérience affective s'incarne avant tout dans le ressenti individuel. La sensibilité, on le sait, a son siège dans les organes sensoriels. Mais les états affectifs ne constituent pas pour autant des états absolus. Ce ne sont pas seulement des processus physiologiques dont le corps détiendrait le secret. Ça, c'est l'anthropologue Le Breton qui le dit. Dès lors, un des enjeux de la saisie du rapport affectif réside dans le fait de ne pas céder à la tentation naturaliste et nominaliste. L'affectivité n'a pas de réalité en soi, elle ne prend sens que dans la relation, elle s'insère toujours dans un tissu de signification. En fait, elle exprime, et c'est ma définition de l'affectivité, de la relation affective, elle exprime la relation du sujet à l'objet et promeut un type de relation à soi, aux autres et au monde. La prise en compte, l'enjeu de la prise en compte de l'affectivité, finalement, elle n'est pas réductible, comme le prétendent certains chercheurs, au simple fait de redonner une place au vécu dans la fabrique des espaces. Au-delà de l'expérience sensible, il convient d'interroger les différentes expressions de l'affectivité, au regard de l'émergence et de la reconfiguration permanente des cultures, des communautés, des régimes et des styles émotionnels. Autrement dit, en considérant un certain nombre d'affects communs que nos sociétés contribuent à façonner, en particulier à travers leurs organisations spatiales. Alors l'enjeu soutenu par cette approche, située socialement et spatialement, vise à donner toute son extension à la dimension relationnelle des phénomènes de l'affectivité, autrement dit, au fait que l'émotion appartienne moins en propre à un individu, en tant qu'entité physique et corporelle, qu'il ne relève d'un système relationnel. Cette propriété relationnelle de l'affectivité, on peut la mesurer à l'aune des principales modalités constitutives de l'émotion. Les chercheurs en psychosociologie, entre autres, ont montré que les émotions étaient le produit conjoint de deux déterminants, d'une part l'évaluation, et d'autre part les désirs. L'évaluation affective d'un objet ou d'un événement détermine sa pertinence au regard des intérêts du sujet. En quelque sorte, les émotions sont des détecteurs de pertinence, ou comme le dit le philosophe Pierre Livet, des révélateurs de valeurs. Les émotions nous indiquent l'écart entre des représentations, des valeurs reconnues et intériorisées, et, d'autre part, des intérêts, des désirs projetés et extériorisés. L'affectivité est donc le processus par lequel la qualité de nos relations aux objets et aux événements nous est révélée. Cette évaluation affective ne met pas seulement en jeu l'individu, ses intérêts, ses besoins, ses valeurs. Inexorablement, la sensibilité à certaines classes d'objets est tramée par l'histoire, la culture, le milieu social et l'environnement spatial. Les intérêts et les valeurs sont le produit d'orientations socio-culturelles. Comme se sont attachés à le montrer un certain nombre de sociologues, les émotions jouent un rôle social également en tant que système codifié susceptible d'influer sur nos attitudes, nos préférences et nos actions. Donc l'affectivité n'est pas le fruit d'une pure individualité. Elle s'exprime et se manifeste à travers l'ensemble des relations que chacun tisse, individus et groupes sociaux, et qui font les modalités de leur insertion dans la société. Les implications de la dimension relationnelle de l'affectivité, et c'est ma conclusion, sont importantes et ne doivent pas être négligées. Alors d'une part pour sans doute nos réflexions et puis la construction des appareillages méthodologiques qu'on met en œuvre, et également d'un point de vue professionnel, ou en tout cas de clarification des pratiques professionnelles dans le domaine de l'urbanisme. Donc si on considère que les phénomènes de l'affectivité dépendent avant tout de la relation que les individus ont au lieu, l'orientation de cette relation affective au lieu repose moins sur les individus pris en eux-mêmes ou sur les lieux pris séparément, comme le font des fois les architectes, que sur les conditions de la relation qui s'instaure entre les deux. Alors une fois qu'on a dit ça, on n'est pas très avancé, mais cette conséquence qui peut ressembler relativement évidente a une conséquence, une implication très pratique, qui a déjà été rappelée dans les présentations avant, c'est qu'il y a un changement paradigmatique qui s'opère ici dans l'action urbanistique, qui est de déplacer les enjeux de la production des formes spatialisées de l'organisation sociale vers, finalement, travailler au ménagement de la qualité de la relation des individus et des groupes sociaux à leurs espaces de vie. Et je pense que ça a été illustré par un certain nombre d'architectes qui aussi adhèrent à cette façon de voir l'intervention sur les espaces. Donc ce déplacement d'ordre paradigmatique implique entre autres répercussions, non pas d'interroger isolément les individus, les sociétés, les espaces, mais d'être en capacité de prendre l'ensemble comme un système relationnel. Sur un plan méthodologique, l'impact est également important pour la saisie du rapport affectif au lieu, puisque c'était ça la question du colloque. Tout d'abord, il devient de plus en plus risqué, même si la tentation est grande, avec les progrès qu'ont connus récemment les neurosciences, de réduire les affects aux indices de leur manifestation, en particulier physiologique, et de prétendre, en ayant accès qu'à la couche ostensible des affects, finalement ce qui s'exprime, atteindre leur signification sociale et individuelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention.
Merci Benoît. On va essayer de lancer deux mouvements. Le premier, j'invite nos intervenants de ce matin à rejoindre Benoît et Christophe. Et en même temps, on va en profiter pour lancer les questions, commencer un peu à demander la prise de parole, en débutant par Dan, qui fera en sorte de plus ou moins cibler, tout en essayant d'entretenir une certaine dynamique, ses questions. Merci.
T'es pas obligé non plus de t'y intéresser.
Non, je le laisse pas du tout de côté.
Parce que dans ta présentation, on ne peut pas du tout parler.
Ben, on peut pas parler de tout.
Justement, par rapport à tes micros, ma petite invité à Valérie François.
À qui? Valérie François. François
Zévalier.
François
Zévalier. François
Zévalier. Je sais pas.
Tu t'appelles Valérie, non?
Oui.
Là. Là, c'est bon. D'accord. Bon, alors, ma question s'adresse à Valérie Françoise ainsi que par rebond à Sylvie. C'est une question concernant la définition. Alors, je vous donne quatre définitions et je vais vous demander de m'aider à préciser la quatrième définition. Les deux premières, c'est un peu une plaisanterie, mais les deux suivantes, c'est sérieux. Donc, objet ni mobile ni immobile, qui lorsqu'il paraît mobile, n'est ni tiré par des chevaux, ni pas tiré par des chevaux.
Théorie.
Vous avez tous compris ? Non, c'est pas ça. Bon, alors maintenant, deuxième définition, qui va être plus clair pour étayer la première définition. Plateau sur roue tiré parfois par des chevaux vapeur. Là, vous commencez à vous dire, c'est peut-être un wagon. Enfin, bref, on commence vaguement à comprendre. Alors maintenant, je vais vers du plus sérieux, mais c'est pareil, je commence par ce qui est complètement incompréhensible, puis après, on va essayer de travailler sur ce qui devient incompréhensible. Donc, lieu ne relevant ni du domicile, ni du travail. Là, c'est pareil que la première définition, j'ai rien compris. Et alors, maintenant, je propose une seconde définition. Donc, lieu d'activité. Alors, je ne sais pas quoi dire, de résidentielle, citoyenne, urbano-citoyenne. Voilà. Donc, en fait, ma question, elle est là. Est-ce que vous pourriez donner une définition de ce tiers-lieu qui soit compréhensible?
Merci, Dan. Alors, je vous prête la parole à toutes les deux pour tout de suite vous la reprendre, pour la donner à Sylvie et François.
Moi, je veux bien essayer de donner une définition du futur tiers-lieu locomotive, de la façon dont on l'imagine aujourd'hui, en tout cas. Donc, c'est un équipement, hein, on parle bien d'un équipement qui doit permettre de recevoir différents types d'activités humaines. Il va recevoir des gens qui pourront venir travailler dans des bureaux, qui pourront venir travailler dans des ateliers, parce qu'il y aura également des ateliers d'artistes. Des gens qui pourront se retrouver puisqu'il y aura différents espaces de rassemblement et des lieux qui permettent la coopération à travers des salles de réunion mutualisées, des espaces mutualisés différents.
Ça, c'est pas une définition, c'est une grande explication pendant 3 heures. En 3 mots, en 5 mots,
ouais.
Une définition, c'est pas une lumière, c'est une entrée.
Alors, un tiers-lieu, en tout cas, un tiers-lieu, c'est un espace multifonction, multi-usage et avec une gouvernance participative des utilisateurs.
Donc la définition la plus ancienne, effectivement, c'est ni un lieu de travail, ni le domicile, c'est la notion de tiers, c'est un lieu entre les deux, voilà, qui crée, c'est-à-dire que où on travaille et où on s'y sent bien comme si on était chez soi. Et du coup, on invite, on est en interaction, enfin un peu comme ici, quoi.
Ouais, alors moi, je n'irai pas du tout sur ces terrains-là, parce que moi, ce tiers-lieu tel qu'on nous le véhicule aujourd'hui, pour moi, c'est une invention programmatique et marketing plus qu'autre chose. Le tiers-lieu, pour moi, je crois que c'est quelque chose qu'on amène avec nous et qui est la capacité qu'a chaque individu à avoir un espace relationnel. Et n'importe quelle situation de vie peut être un tiers-lieu, c'est-à-dire je prends le train et j'interagis avec mon voisin pendant un parcours ou je crée des conditions d'un tiers-lieu. L'espace public, enfin je renvoyais à Isaac Joseph quand j'en parlais, Isaac Joseph quand il parle de compétences du citadin, d'espace public comme théâtre d'action, il définit l'espace public comme un espace relationnel avec différents degrés de relations qui vont de la coopération jusqu'au conflit, quoi. Et c'est... Alors moi, c'est vrai que pour moi, le tiers-lieu, c'est l'espace du collectif et de la confrontation à autrui qui peut faire de la collaboration, mais pas forcément.
Pour précision et pour complément, tout le matériel pédagogique accumulé par la SEM Ville Renouvelée à travers les multiples opérations, je ne vous en ai présenté qu'une, mais il y en a effectivement bien d'autres, et bien tout ce matériel pédagogique, dont les maquettes de la rue Stephenson, sont aujourd'hui disposées dans le nouveau tiers-lieu inauguré tout récemment par la SEM Ville Renouvelée, dans un de ces bâtiments de la Tossée qui s'intitule Le Champ Libre, et qui était l'ancienne antenne de la Voie du Nord qui a fermé ses portes. La SEM a dû libérer la maison de l'Union parce qu'elle a enfin trouvé un locataire pour ses locaux et donc elle se déplace vers l'ancienne antenne qui dorénavant s'intitule Tire-lieu, le champ libre. Le champ libre, c'était le nom autrefois de l'ensemble du bâtiment sur le site de la Tossée.
Merci. Oui, une toute petite remarque et une question.
Pour qui ?
D'abord, remarque sur la dernière intervention. Je vous remercie tout à fait de mettre en évidence et d'interroger l'émotion et de la mettre en dimension historique. Et très, très brièvement, je crois qu'il faut vraiment s'interroger là-dessus parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect historique qui est peut-être de se différencier par rapport à tout ce qui était non émotif, et je pense dans l'histoire des sciences de l'homme au structuralisme et au marxisme, hein, duquel nous venons, premier point. Et deuxièmement aussi, dans nos travaux, de certainement se distinguer de l'émotion qui est cette mise en avant de l'émotion qui est très, très, très contemporaine et qui est très liée au capitalisme se développant, et que je crois que par rapport à ça, il faut considérer dans nos travaux l'émotion comme étant une arme contre arme, ne pas les laisser parler, ne pas les laisser faire dans ce champ-là. Nous avons nos choses à dire. Et ça me relie à la notion de lieu. J'ai trouvé un petit peu que dans ce que vous avez présenté, il y avait peut-être un danger qui était que justement il n'y ait pas une récupération très politiquement correcte du lieu. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai posé la question de Notre-Dame-des-Landes, et que, attention, c'est quand même évidemment très très politique, et qu'il faudrait peut-être penser en termes de contre-lieu, de contre-spatialité, et de remettre la politique dans son énergie pulsionnelle irrécupérable, parce que là, il y a peut-être ce danger d'aller un peu trop travailler avec l'élu. On voit tous où ils veulent nous mener, hein. C'est la catastrophe.
Alors Benoît, Christophe, et éventuellement, si d'autres personnes veulent rajouter des choses à dire. Mais si, tu as toujours quelque chose à dire.
Patrick, j'ai une question. Vous l'avez évoqué, en tout cas, c'est... Pardon ? Ma question portait sur le cet oubli qu'on avait peut-être depuis le début de ce colloque sur les structures, sur l'épaisseur historique. On l'a tous évoqué, l'épaisseur historique à l'échelle de l'individu, mais pas grand chose jusqu'à présent sur l'échelle historique des manières de sentir, des émotions. Il y a toute une historiographie sociale, culturelle. Il y a plein d'historiens qui ont travaillé là-dessus notamment. Et du coup pour compléter la question de Patrick, est-ce que vous l'avez dit comme ça, est-ce que vous pourriez caractériser le régime d'affectivité dans lequel nous serions plongés là en Occident aujourd'hui, et à quel régime du coup est-ce qu'il succéderait?
Alors régime d'affectivité, ça va être difficile à qualifier substantiellement, parce que ce que j'ai décrit dans ma présentation, c'est plutôt une façon, les manières d'être sensible. C'est pas on est attaché à telle chose ou à telle autre, mais c'est dans la manière dont on doit se revendiquer dans nos identités, dans notre rapport à l'espace, d'un certain nombre d'attaches et d'ancrages. Les sociétés, j'imagine, parce que je ne les ai pas vécues, mais il y a un certain nombre d'années, ne se vivaient pas comme devant être attachées, ancrées, revendiquant une entité spatiale. Et donc c'est simplement une mise en perspective. Mais les régimes, ça ne renvoie pas à des dimensions substantielles, ça renvoie à une dimension procédurale. Donc il ne faut pas chercher à déterminer aujourd'hui ce que serait l'affectivité par rapport à des objets, mais plutôt à des manières d'être. Il y a une expression de Lipovetsky qui est intéressante dans l'esthétisation du monde, c'est une individualisation de masse, quoi. C'est-à-dire, bien sûr, il ne faut pas chercher dans les décors de nos intérieurs des choses redondantes et strictement mimétiques. C'est plutôt dans notre intérêt à décorer nos intérieurs de façon la plus individualisée possible, une manière... voilà. Et ça, c'est ce qui caractérise le régime de l'affectivité, c'est le fait qu'on la rabatte entièrement sur l'individu, aujourd'hui, je pense.
Ouais. Moi, je vais avoir une approche un peu complémentaire, enfin d'un autre point de vue, hein. Je pense que ce qu'on essaie d'étudier avec ce colloque, on pourrait appeler ça un continent noir ou des fosses marines, hein. C'est l'habité, le rapport affectif au lieu, c'est un, c'est une problématique qui va nous engloutir, bien sûr. Hein. Donc on est en train d'explorer des fosses marines avec des petites sondes, avec un bathyscaphe, on retire des petits échantillons. Par exemple, moi je fais des méthodes, un coup de sonde, on repère une bribe de savoir qu'on remonte la carte de Gulliver, on prélève, on récupère un petit peu de savoir pratique de vigilance, mais on ne sait rien sur le reste. L'atelier d'écriture, on comprend un peu mieux une dimension symbolique et imaginaire du mode débuté, mais on ne sait rien sur le reste. Quand on présente nos recherches, on durcit la cohérence, hein, on fait une rhétorique du savoir, on surjoue la maîtrise, mais c'est faux. Et je pense qu'on est dans l'entre-deux. Ce besoin, effectivement, de donner un cadre théorique, qui est nécessaire, bien sûr, pour ce... ne serait-ce que pour se repérer, mais c'est ça, l'exploration d'un continent noir. On n'est pas... Et on ramasse des petites bribes. Alors on peut effectivement mettre en cohérence tout ça, c'est ce qu'on doit faire. Hein. Si on vous file des petites monographies, des petits bouts, on n'aura pas fait notre travail. Mais il faut être attentif au fait qu'on surjoue la maîtrise dans ce qu'on dit. Hein. Donc c'est tout.
Alors moi, je ne vais pas répondre sur l'histoire de l'Occident ou autre, mais dans la petite histoire de l'économie sociale et solidaire, et sur la notion de tiers-lieu, je suis d'accord, il y a un côté marketing à la mode, on y fourre tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Hein, ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'on avait essayé de faire un peu un film pour montrer des exemples. Finalement, il y a autant de lieux. Voilà. Mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est que c'est le collectif, finalement, comment... Alors c'est vrai que dans un café, quand on est ensemble, voilà, on est plusieurs. Mais là, sur les tiers-lieux, en tout cas, qui m'intéresse d'observer et de regarder, c'est la notion de collectif. Et surtout, justement, par rapport à l'histoire de l'économie sociale, et ça a des affects aussi, où il y a des émotions, c'est que justement dans ces espaces-là, l'idée, c'est plus l'entre-soi, justement, de l'économie sociale et solidaire, que des assos, par exemple, entre elles, dans ces lieux-là. C'est aussi l'ouverture... du privé, des entreprises classiques, aux citoyens, c'est cette mixité en fait des structures. Et du coup, là, il y a des affects effectivement forts parce que c'est plus l'entre-soi, c'est aussi écouter ou essayer de comprendre comment fonctionne l'autre et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc c'est ça qui m'anime particulièrement et qui est peut-être un peu en rupture. Alors voilà, sur la petite histoire, même si l'économie sociale est pas d'aujourd'hui non plus, mais dans ce mouvement-là. Le terme tiers-lieu, effectivement, c'est pas tant ça, mon intérêt, mon sens d'intérêt. L'intitulé, voilà.
Oui, je voulais faire part d'une interrogation, c'est est-ce qu'un lieu peut se décréter ? Et est-ce qu'il ne tient pas, le lieu, au débordement, par la vie qui s'y mène, de la finalité qui lui a été attribuée ?
Ah. Allez, c'est du live, hein. C'est du live parce que j'y ai pas beaucoup pensé, mais ça m'est venu comme ça. Et bon, comme d'habitude, c'est une petite pirouette au départ. Est-ce qu'un lieu peut ne pas se décréter ? La question, c'est qui décrète ? C'est-à-dire que d'une certaine manière, c'était la dernière intervention. Hein, on mettait le sensible dans le relationnel. Si je ne décide pas qu'un lieu est lieu, il n'existe pas en tant que lieu. Donc d'une certaine manière, les usagers du lieu, ceux qui y sont, parce qu'ils y vivent, le décrètent comme lieu ou le reconnaissent comme lieu. Ensuite, la question est de savoir qui le décrète. C'est, finalement, si c'est un urbaniste tout seul dans son coin, sur un bout de table, qui décrète que le lieu est lieu, c'est une absurdité complète. Par contre, effectivement, le lieu n'existe parce que les personnes autour qui y vivent ou qui y font référence pour une raison lambda considèrent que ce lieu fait lieu. C'est-à-dire, je vais pas reprendre du Berck, hein, qu'il y a co-spatialité, qu'il y a une mémoire commune, que les gens ont quelque chose qui les rattache à cet endroit et le définissent comme lieu. Voilà. Mais c'est du live, hein, j'y ai pas pensé avant.
Tout architecte sait que les lieux qu'il dessine ne seront jamais ni perçus ni utilisés comme il les a projetés, systématiquement.
Juste un truc, je pense qu'en urbanisme, on a souvent tendance à confondre lieu et programme. Et là, c'est, je pense que ce qui se passe aujourd'hui, et si le lieu revient sur le devant de la scène, et si on essaye de développer des tiers-lieux, c'est parce que justement on commence à mettre à mal cette relation entre programme et lieu, qui est un peu ce que, voilà, dans cette idée qu'on décrète parce qu'il s'y passe quelque chose que ça doit faire lieu.
Pour rajouter juste un tout petit complément, mais très rapidement, parce que ça fait l'objet d'une discussion, notamment avec mon directeur de thèse sur rapport affect-ex, mais on reste toujours un directeur de thèse. Rapport affectif à l'espace, rapport affectif au lieu. Alors c'est vrai que le lieu, moi, maintenant, tel que je le conceptualise, c'est une dimension pour moi, c'est un concept sociologique. Le lieu, ça se fait que par les individus. Et le spatial n'utilise pas toute la richesse, à mon avis, des déclinaisons du concept d'espace, comme aussi le lieu tel que défini par les géographes, il n'a pas de dimension spatiale. C'est le point zéro, c'est le lieu, et il est avant tout sociologique, mais ce n'est pas réduire la dimension...
Oui, juste un petit point sur l'intervention qui a commencé par une critique de la phénoménologie. Moi, je suis tout à fait d'accord avec l'intervention qui met l'accent sur les relations et sur l'historicité de l'affectivité. Simplement, c'est la phénoménologie qui permet de faire ça. C'est donc curieux de l'aborder par une critique de la phénoménologie. Des gens comme Bachelard, hein, que vous avez cité aussi, comme étant représentant de la phénoménologie. Oui, c'est lui aussi qui introduit l'historicité dans les conceptions, qui va mener à toute une école française, qu'on appelle maintenant française, donc Canguilhem, Foucault ensuite, qui vont insister sur la dimension historique. Donc, tout à fait d'accord sur vos conclusions. Simplement, la mise en perspective qui appuie sur... une erreur qui serait d'aller du côté des phénoménologues, là, me paraît un petit peu excessive.
Attends. Attends. Oui, mais j'allais dire la parole est à la défense. Mais laisse finir.
La critique que j'ai faite, ce n'est pas la critique de la phénoménologie, bien évidemment. C'est la critique d'une certaine compréhension et d'une certaine application des conséquences de la phénoménologie.
D'accord. Oui, parce que c'est une...
La phénoménologie, elle prend en compte le social.
C'est pour ça
que je l'ai bien différencié
quand
des pratiques professionnelles.
Quand vous disiez que la phénoménologie insiste sur une intériorité, bah, c'est précisément ce qu'elle a combattu. Donc, vous voyez, c'est ça qui était curieux.
Mais on parle beaucoup de subjectivité, d'intériorité par rapport aux affects, et en fait...
On se fait toujours des illusions dans la compréhension de ce qu'on entend, mais bon, pour moi, les deux dernières interventions, je l'ai compris justement comme une remise en cause des mots avec lesquels finalement on pratique notre science, notre projet scientifique. Car en fait, la lutte, il y a incontestablement une lutte scientifique et de praticien, une lutte scientifique et politique à travers les mots que l'on choisit. Et justement, effectivement, comment se fait-il que... j'ai conçu, c'est-à-dire le terme d'espace qui nous entraîne vers la spatialité, qui nous entraîne par la spatialisation, qui nous entraîne vers quelque chose contre lequel les gens luttent, y compris d'ailleurs les supporters de foot. Ils luttent contre le fait qu'on introduit à travers le concept d'espace, hein, et donc c'est le concept de lieu ou de milieu qui lui fait, ou de contre-lieu, est aussi une façon de lutter contre finalement un mot qui entraîne une certaine... Et donc, moi, tout simplement, je me dis, bon, bien sûr, tiers-lieu, mais comment c'est extraordinaire que dans cette période d'économie sociale et solidaire où on devrait trouver des mots qui disent la façon dont on veut écouter et rendre solidaires les gens et tout. Comment se fait-il qu'on invente ce mot-là, tiers-lieu, alors qu'en fait on en avait un Évidemment, il a été peut-être un peu galvaudé par Malraux, mais on avait tout simplement la maison. La maison. C'était le lieu. C'était la maison. On construit. À la fois, on construit, on entretient un lieu. Et donc, on a appelé quand même les maisons. On les a appelés aussi des foyers. On a appelé aussi des lieux, des lieux comme... Est-ce que... Mais je pense qu'on est tous dans une tension, finalement, pour à la fois réinventer, peut-être, ou inventer des mots, inventer des concepts qui nous permettent, et c'est ce que je pense, qui nous permettent de conserver cette idée de relation, d'interrelation, et que aucune discipline en elle seule ne pourra effectivement résoudre à elle seule.
Je veux bien juste rebondir, juste pour... je ne suis pas tout à fait d'accord sur... Enfin, non, mais pour les géographes, sur la lutte contre l'espace, parce que c'est vrai que l'espace, on l'envisage comme une distance, je peux vous assurer que moi, je suis très content de mettre de la distance et d'utiliser l'espace pour mettre de la distance avec les choses. Mais la maison, c'est un concept, la maisonnée, c'est un concept qui renvoie à les institutions sociales, la famille, enfin, et évidemment, l'espace gagne à enrichir son vocabulaire, ses registres, pour aller jusqu'au lieu, mais il y a bien une gradation, mais la spatialité comme quelque chose qu'on devrait systématiquement franchir d'infranchissable, etc., moi, les gens font des agencements spatiaux signifiants, et après, des fois, c'est des lieux, des fois, c'est pas des lieux.
À mon avis, tous les lieux...
Ouais, parce que
il n'y a pas de lieu qui soit pas lieu. Il n'y a pas de personne, il n'y a pas de gens qui ne soient pas, il n'y a pas d'habitants qui ne soient pas habitants. Tout le monde est habitant et tous les lieux sont des lieux.
Oui, pour une fois, pas sur ce que tu disais à la fin, mais au début, je plus sois, pour une fois, on est d'accord. Voilà. Et une idée me venait en plus, hein, et je pensais aux supporters du Qatar Saint-Germain. Qui actuellement ne sont plus des mêmes quartiers que ceux qui étaient ceux du Paris Saint-Germain ou du Paris Football Club. Après, il y a une transposition sur ce lieu lorsque les investisseurs ont changé. Des personnes qui s'y trouvaient ou qui les supportaient. Et une idée qui m'est venue là, comme ça, immédiatement, simplement, c'est que l'on parle quand même de maisons, etc., etc., il y a quelque chose de caractéristique. C'est assez banal ce que je vais dire, mais quand même, parce qu'on n'en parle pas du tout, c'est qu'il y a des limites entre un extérieur et un intérieur. Que ce soit un tiers-lieu, un espace, une maison, il y a nous et il y a les autres. Il y a ce qui se passe de l'autre côté de la barrière. Et la manière dont on met cette limite n'est pas innocente. Et c'est vrai que le poids politique des mots, jusqu'au renversement des mots, je me rappelle un endroit du côté de Royan, il y en a plein qui ont dû le connaître ici, qui s'appelait l'espace du possible dans les années 80-90, et qui est un espace fort limité entre ce qui était dedans et ce qui était dehors également. Donc voilà, cette question de limite ou de passage de l'un à l'autre me paraît important. On ne l'a pas abordé moi non plus d'ailleurs, mais il y a quand même une logique de club derrière aussi, voilà, pour être un peu provocateur.
Merci, je suis assez d'accord. Je demande à Georges-Henri si je peux parler, trop tard. Alors, la question de limite, elle a été très très peu abordée.
Excuse-moi.
La notion de limite a été très peu abordée, effectivement. Mais François, quand tu dis elle est toujours présente, je ne suis pas sûr on peut se servir du concept qui doit être dans le dictionnaire, je crois, en tout cas, de Lévy et Lusseau, horizon avec un T, dérivé de l'allemand. Et ça correspond tout à fait aux territoires affectifs qui n'ont pas forcément. Une limite, un seuil ou quelque chose comme ça. Voilà.
Alors, visiblement,
pour nuancer ton propos.
Il y a deux réponses. Voilà. Il y a François qui va apporter une réponse à Denis et après Christophe qui apportera une réponse à Nicole et normalement on s'arrêtera là. Parce que sinon là, l'autre cloche, à part moi, va retentir.
Je vais apporter une réponse. Je ne vais pas apporter une réponse. Je vais apporter une énième provocation, mais qui a du fond, vraiment. Je discutais avec Claude Raffestin à une époque, juste après le dictionnaire Lévi-Lusseau. Qui disait, et je trouve que c'est pas mal avec ce que tu disais auparavant, un dictionnaire, c'est un bon moyen de prendre le pouvoir. Voilà. Il y a quelque chose qui est sur les mots, Lévi-Lusseau disent, et d'autres personnes disent d'autres choses, et à mon avis, c'est tout aussi bien.
Voilà.
Ça, c'est une conclusion de colloque.
plutôt dire, comme architecte, moi je n'ai pas cette habitude ou cette capacité à distinguer entre...
On n'entend pas.
Oui. Ça marche pas. Ça marche. Bon, alors oui. Alors, en tant qu'architecte, je m'entends même un peu trop fort là. Moi, je n'ai pas cette pratique de distinguer avec toute cette subtilité dont j'entends l'écho répété entre les lieux, l'espace, les espaces. Un architecte, j'ai envie de vous faire une réponse qui n'est sans doute pas celle que vous attendez. C'est-à-dire dans le débat, et c'est le cas de notre ami Bouchain sur la rue Stephenson, l'architecte, c'est quelqu'un qui investit l'espace. Et à vrai dire, il est peut-être le seul qui investisse vraiment l'espace. Et oui, attendez, laissez-moi continuer, je vous en prie. Non, laissez-moi. Et puis, quand il a fait son projet, il le livre, ce que je disais tout à l'heure. L'architecte propose, mais il sait bien que les usagers disposent, pour en faire tout autre chose, sur lequel l'architecte n'a pas de prise, et pour lequel, en réalité, parce que c'est un plasticien, parce qu'il poursuit une interrogation qui lui est personnelle, il n'a pas vraiment d'intérêt. Excusez-moi de le dire avec cette brutalité-là. Quand j'évoque le cas Bouchain, j'ai pu examiner, j'ai interrogé Lucien Kroll, par exemple, sur la Mémé. J'ai aussi pu travailler sur le Courguin autour des architectes urbanistes qui avaient fait travailler Micha Andreïev, qui avait fait travailler des architectes qui effectivement s'investissaient très fort dans la concertation, la participation, etc. Bon. Et ce qui ressort à chaque fois, c'est que l'architecte est d'abord là comme un plasticien. Et son propos, il est effectivement d'identifier le formel, la forme. Je suis désolé, c'est une réponse qui doit vous frustrer, mais c'est le ressenti. Et de fait, on s'aperçoit qu'à travers toutes ces démarches, oui, il y a effectivement... un intérêt très réel. Je pense que tous ces architectes, et Lucien Kroll le premier, est quelqu'un qui est très sincère. Mais le fait est que j'ai emmené mes étudiants chez Lucien Kroll. Nous avons discuté avec lui longuement. C'était une réunion extraordinaire. Il habite dans la banlieue de Bruxelles, un très beau quartier, très résidentiel. Il a construit son propre immeuble, qui est sa propre agence, qui est une merveille de l'architecture du Bauhaus. Et son jardin, c'est un jardin extraordinaire, mis en scène par sa femme. Et là, nous sommes aux antipodes de la Mémé, aux antipodes du néo-vernaculaire. Et si vous allez à Bruxelles, que vous voyez la Mémé, et que vous regardez le quartier, vous franchissez la passerelle, et vous arrivez sur la faculté de médecine, qui a été réalisée par son confrère et ami Montois. C'est une merveille de l'architecture moderne, complètement inspirée de l'espace japonais. Et l'un fonctionne avec l'autre. C'est-à-dire que ces deux architectes sont tous les deux issus du mouvement moderne. Ils sont tous les deux passionnés par l'abstraction en réalité. Après, par quel support ils dialoguent pour parvenir à leur projet. Je suis désolé de vous dire ça, parce que peut-être que cela vous choque et peut-être vous trouble, mais l'architecte est là effectivement pour écrire son projet. Et c'est toujours ce à quoi il parvient. Excusez-moi de...
Merci à toutes, à tous et à vous aussi.
c'est lui, c'est lui.
C'est au micro ?